Soyez les bienvenus sur France Inter, il est 8h. Voici le journal d'Estelle Schmitt. Bonjour Estelle.
Bonjour. Établir un cessez-le-feu solide et freiner l'escalade militaire. Conférence internationale cet après-midi sur la Libye à Berlin. L'objectif est également de mettre fin aux interférences étrangères dans cet État aujourd'hui coupé en deux. 45 jours de grève contre la réforme des retraites et la reprise du travail dès demain à la RATP en région parisienne, décidée par l'UNSA, le principal syndicat. Une pause mais pas la fin des actions. Eux vont défiler cet après-midi dans les rues de Paris, les opposants à la PMA pour toutes, alors que le projet de loi bioéthique arrive au Sénat mardi. Un nouveau président pour le Conseil français du culte musulman, il sera désigné cet après-midi, mais un seul candidat finalement. À 8h20, votre invité Eric.
Le journaliste Charles Anderlin pour son dernier livre, Les Juifs de France, entre République et Sionisme. Le livre paraît aux éditions du Seuil.
Dans ce journal également, rencontre avec une star du classique, le violoncelliste Chekou, qui sort un deuxième album. Et puis la Coupe de France de foot et l'exploit de Belfort face à Nancy hier, deux divisions d'écart. Amaya Cazenave reviendra notamment dans son journal des sports dans 10 minutes.
France Inter.
Présents tous les deux, mais pas à la même table, les deux principaux protagonistes libyens de la crise dans leur pays sont à Berlin, où s'ouvre cet après-midi un sommet international sous l'égide de l'ONU. Fayez al-Sarraj, chef du gouvernement d'Union nationale, reconnu par l'ONU, basé à Tripoli, la capitale, et le maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est du pays, qui a lancé une offensive il y a 9 mois pour conquérir la capitale. Haftar, soutenu par la Russie et les Émirats arabes unis, notamment quand Fayez al-Sarraj lui bénéficie du soutien militaire de la Turquie. Les deux camps observent une trêve depuis une semaine maintenant, mais s'accusent mutuellement de ne pas la respecter. Un conflit donc d'abord régional, mais qui s'étend, d'autant que la Libye a d'importantes réserves de pétrole. Les pro-Haftar ont d'ailleurs bloqué les principaux terminaux pétroliers hier. Cet après-midi, les États-Unis, la Russie, la Turquie, l'Italie et la France seront à Berlin. Emmanuel Macron fait le déplacement en Allemagne. L'Allemagne qui espère faire accepter une trêve durable à Berlin. Nathalie Versieux.
La conférence marque-t-elle le retour de Berlin sur la scène internationale? L'initiative d'Angela Merkel a de quoi surprendre. La République fédérale est plutôt connue pour sa discrétion diplomatique à l'image d'une grande Suisse. Le fait de ne pas avoir participé en 2011 à l'offensive militaire qui a mené à la chute de Kadhafi est aujourd'hui un atout pour l'Allemagne, réputée neutre. Avec cette conférence, Angela Merkel cherche aussi à démontrer que le multilatéralisme peut encore dénouer des conflits, de l'avis de Daniel Gerlard, spécialiste de la Libye.
Avec cette conférence, il s'agit en premier lieu de vérifier si dans le contexte actuel, avec le repli sur soi des États-Unis, il est encore possible de trouver des solutions internationales au conflit, de faire aboutir des solutions multilatérales.
Concrètement, Berlin vise la conclusion d'un accord de cessez-le-feu durable et le retrait du conflit des puissances étrangères, notamment celles qui fournissent des armes aux belligérants, afin de faire de la Libye un partenaire fiable sur les questions sécuritaires et migratoires. Berlin, Nathalie Versieux pour France Inter.
Et le conflit en Libye a déjà fait plus de 2000 morts et plus de 140 000 déplacés. Au Yémen, au moins 70 soldats pro-gouvernement tués ce matin dans une attaque imputée aux rebelles chiites Houthis, un tir de missile contre une mosquée. L'une des manifestations les plus violentes au Liban depuis le début du mouvement de contestation il y a 3 mois. Hier, plus de 220 blessés à Beyrouth lors d'affrontements avec les forces de l'ordre.
En France, retour sur les manifestations d'hier contre la réforme des retraites.
À Rouen, Caen, La Rochelle ou encore à Paris, où le chœur et l'orchestre de l'opéra en grève depuis plus d'un mois ont offert un concert sur les marches du Palais Garnier. Et puis à noter également cette suspension de la grève décidée au 45e jour du mouvement par l'UNSA, la RATP, essentiellement pour des raisons financières, explique Bastien Berthier. C'est le porte-parole du syndicat au sein de la régie.
Les collègues, en fait, au bout de 45 jours de grève, ça commence à être dur financièrement. Vous allez voir que le gouvernement a juste fait pourrir le mouvement. Donc on est un peu obligé de souffler financièrement et on continuera le mouvement. Et je peux vous dire que c'est juste reculer pour mieux s'aider. À l'heure d'aujourd'hui, mes collègues ont dû perdre environ 3000 euros en 45 jours. Allez, entre 2000 et 3000 euros selon les métiers. Il n'y a aucune caisse de grève qui va permettre de rembourser à des milliers d'agents entre 2000 et 3000 euros. C'est impossible. Et le mouvement, on le continue. Et dès le 24 janvier, vous verrez que le mouvement il n'est pas terminé. Nous, on va tout faire pour que le mouvement survive. On cherche un second souffle. Et dès le 24 janvier, ce sera le second souffle.
Et attention, les lignes 5 et 13 du métro, elles ont décidé de continuer le mouvement au moins jusqu'à cette journée d'action de vendredi prochain. La mobilisation des gilets jaunes à Paris également hier après-midi et 59 interpellations. Lui a été interpellé puis ressorti libre hier soir sans être mis en examen. Le journaliste Taha Abouaf s'arrêtait vendredi soir après la tentative d'intrusion de manifestants dans un théâtre parisien où se trouvaient Emmanuel Macron et son épouse, le journaliste de 22 ans placé sous le statut de témoin assisté. Et dans ce contexte social qui s'est tendu, cette condamnation dans le Parisien dimanche aujourd'hui de Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, condamnation de toute forme de violence.
Et dans les rues de Paris cet après-midi, il n'y aura pas d'opposants à la réforme des retraites, mais des opposants à l'ouverture de la PMA à toutes les femmes.
Oui, le projet de loi bioéthique a été adopté en première lecture par les députés en octobre, mais il arrive mardi au Sénat. Un collectif de 22 associations dans la Manif pour tous a appelle à se rassembler sous la bannière Marchons Enfants. Farida Noir a rencontré deux opposants qui estiment que la PMA pour toutes met en danger notre civilisation. Reportage.
Est-ce que dans 30 ans, on ne va pas se réveiller en disant on a bousillé des générations entières d'enfants qui vont vivre sans père?
Camille sera dans le cortège cet après-midi. Si la jeune femme de 29 ans dit comprendre la souffrance des couples de lesbiennes et de femmes seules qui ont un désir d'enfant et ne doute pas de l'amour qu'elles pourront lui donner, elle s'oppose fermement à la PMA sans père.
La question c'est, est-ce que on va transformer tous nos désirs en droits? Et est-ce qu'on ne va pas justement créer une inégalité pour les enfants en les privant délibérément de leur père? Qui sommes-nous en fait pour réinventer la filiation, changer la procréation? Il y a déjà énormément d'enfants qui sont privés soit d'un papa ou d'une maman par les aléas de la vie, par plein de choses. Est-ce qu'on va créer sciemment cette privation? C'est pas parce que c'est techniquement faisable que c'est forcément souhaitable.
La loi bioéthique, une loi vertigineuse, s'inquiète Thomas, 37 ans, qui sera aussi dans la rue tout à l'heure.
Moi, en tant qu'homme, vous voyez, je me dis, on est en train d'éjecter les pères et de les rendre facultatifs. Et ça, c'est très problématique. On est en train d'instituer ce droit à l'enfant. Et aujourd'hui, un couple de femmes ou une femme seule auront droit à un enfant. Et demain, d'ailleurs, on ne voit pas pourquoi est-ce qu'un couple d'hommes n'aurait pas droit à cet enfant. Et en fait, on est en train de donner le cadre légal et la possibilité de réaliser des GPA.
Le rassemblement est prévu à 13h cet après-midi à Paris.
Farida Noir. Il est souvent critiqué pour son manque de représentativité des Français musulmans, mais reste le principal interlocuteur des pouvoirs publics sur le culte musulman. Le Conseil français du culte musulman, lancé en 2003 par Nicolas Sarkozy, il désigne son président cet après-midi. Un seul candidat finalement, Mohamed Moussaoui, qui a déjà présidé par le passé le CFCM, et ce après le retrait hier de Shems Eddine Hafiz, le nouveau recteur de la mosquée de Paris, qui a expliqué sur les réseaux sociaux qu'il voulait privilégier consensus et concertation. Mohamed Moussaoui, franco-marocain de 55 ans, agrégé en mathématiques, il préside actuellement l'une des fédérations qui compose le CFCM, l'Union des mosquées de France. Son premier projet pour le Conseil français du culte musulman, c'est de le rapprocher des fidèles.
Les musulmans de France se sont un peu éloignés de cette instance qui est coupée de sa base. C'est pour cela que l'Union des mosquées de France a proposé de réorganiser le Conseil français du culte musulman à partir des départements. Il faut revenir à l'échelon départemental, donner la parole à nouveau aux mosquées pour permettre une élection de la base vers le haut, qui permettrait d'éviter les différends qui peuvent exister entre telle ou telle fédération. Il faut créer une instance des cadres religieux, imams et aumôniers, parce qu'aujourd'hui, le CFCM, c'est une instance administrative de gestion, mais les cadres religieux, les imams et les aumôniers n'ont aucun espace de dialogue et de représentation. C'est la formation des cadres religieux, leur statut, c'est aussi le financement du culte musulman. On pourrait aussi penser, et nous y insistons beaucoup, sur la création d'un observatoire contre le radicalisme.
Mohamed Moussaoui, seul candidat à la présidence du Conseil français du culte musulman, il répondait à Mathilde Dehimi.
Lui, il a 20 ans, il est violoncelliste et il est devenu en quelques mois un grand nom de la musique classique.
Sekou Kané Mason, sa notoriété a fait un bond depuis le mariage royal de Meghan et Harry à Windsor, où il avait joué plusieurs morceaux, c'était il y a un an et demi, une éternité ce mariage, alors qu'hier le prince Harry et son épouse Meghan ont annoncé qu'ils mettaient en retrait de la famille royale, renonçaient à leur titre d'altesse royale et qu'ils ne toucheraient plus non plus. Plus de fonds publics. Loin, très très loin de ce tumulte, Sekou sort un deuxième album autour du compositeur Edouard Elgar, Stéphane Capron.
Il est devenu la pop star de la musique classique, mais il garde la tête sur les épaules. Sekou ne veut pas se laisser griser par le succès. Pour ce deuxième album, il s'est attaqué à un monument, le concerto pour violoncelle d'Elgar. C'est la musique qui a bercé son enfance.
J'ai grandi en écoutant cette pièce et en regardant tous les concerts qui pouvaient exister. C'est vraiment une pièce extraordinaire. Il y a beaucoup d'enregistrements époustouflants et c'est ce qui m'a donné envie de devenir violoncelliste.
Sekou a eu la chance d'enregistrer dans les studios d'Abbey Road qui avaient été inaugurés en 1931 par Elgar. Il a été dirigé pour cet enregistrement par l'un des plus grands chefs d'orchestre de la planète, Sir Simon Rattle.
En tant que jeune artiste, je me sens vraiment soutenu. Cela m'a beaucoup guidé de travailler avec lui sur cette pièce qui compte le plus pour moi. J'ai beaucoup appris à ses côtés sur la façon de trouver de la liberté pour entrer au cœur de la musique.
De Meghan et Harry, Sekou n'a plus de nouvelles depuis leur mariage. Il espère maintenant rééditer avec cet album Elgar l'exploit du précédent, celui autour de Shostakovich qui s'était hissé en tête des ventes sur iTunes aux États-Unis.
Voilà, Elgar, le nouvel album du violoncelliste Sekou Kané-Mason qui vient de sortir chez Decca.
Le violoncelle dans le journal d'Estelle Schmitt.